Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il est un tonton flingueur dont le talent n'a d'égal que l'imposante carrure et l'incroyable carrière. Si on le connaît au cinéma, c'est sur les rings parisiens qu'il a commencé à jouer et à balancer des coups pour de vrai. Je vous raconte le catcheur, devenu acteur, Lino Ventura. Nous sommes en 1963. Ce mercredi 27 novembre sort sur les écrans un film qui va marquer la mémoire collective à jamais. Un film que la télévision n'a cessé depuis de diffuser, de rediffuser, de re-rediffuser.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Vous avez reconnu les tontons flingueurs et l'une de ces scènes d'anthologie portée par l'acteur Lino Ventura. S'il a tourné 75 films dans sa carrière, le rôle de Monsieur Fernand reste pour beaucoup le plus marquant. Les répliques imaginées par Michel Audiard y sont pour beaucoup, mais Lino Ventura, avec ses épaules carrées et sa densité physique, fait des merveilles dans ce rôle de truand à l'ancienne qui règle ses comptes en distribuant des bourre-pifs.
Oui, t'as déjà vu ça ? En pleine paix ? Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
Je m'en vais lui faire une ordonnance.
Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle.
Mais si nous sommes nombreux à connaître par cœur certaines des répliques les plus célèbres des tontons, il y a un détail que l'on ne peut pas voir. Dans l'une des scènes de bagarre, Lino Ventura affronte l'acteur Henri Cogan, un costaud qu'il finit par expédier d'un bond direct à la mâchoire. À l'écran, la scène s'arrête là. Mais sur le plateau, ce jour-là, Ventura y va d'un « ça, c'est pour ma jambe », comme le racontera plus tard Cogan. Cette petite phrase passait quasi inaperçue sur le tournage est pourtant une allusion au passé des deux hommes. En 1963, cela fait exactement 13 ans qu'Henri Cogan a bien malgré lui brisé la jambe et de fait la première carrière de Lino Ventura, celle d'un champion d'Europe de catch. Mais puisqu'on parle de cinéma, rembobinons la pellicule pour revenir aux racines et à l'enfance de Lino Ventura. Les premières sont italiennes. Angiolino Ventura naît juste après la guerre en Italie à Parme en 1919. Mais son enfance, elle, est celle d'un gamin qu'on arrache bientôt à la région de l'Émilie-Romagne de ses jeunes années. Alors qu'il n'a que 8 ans, sa mère rejoint la France pour y retrouver son mari, représentant de commerce à Paris. Les retrouvailles sont brèves. Un beau matin, le père de Lino disparaît tout simplement, sans laisser d'adresse. Pour le petit Lino, c'est une déchirure. Une de plus. À Montreuil, ou dans le 9e arrondissement de Paris, pour lui, les choses ne changent guère. Dans la cour de l'école, le racisme ordinaire est une constante. Bien des gamins se moquent du petit Rital, de son accent et de sa tête de parmesan. Une formule qui le marque au fer rouge et qui déclenche parfois quelques belles bagarres à la récréation. Alors, quand il ne travaille pas comme groom ou livreur pour aider sa mère à joindre les deux bouts, Lino passe le plus clair de son temps libre avec les copains de son quartier, près du square Montholon. C'est là qu'un lutteur professionnel, l'Autrichien Fred Oberlander, remarque un jour les épaules larges et la carrure ramassée du jeune Ventura. Et l'aventure commence là. À 16 ans, Lino Ventura n'est pas immense, il mesure 1m76, mais il est solide et dense, avec des capacités athlétiques hors du commun et un physique idéal pour la lutte. Fred Oberlander le prend alors sous son aile. Entre deux petits boulots, Lino découvre le monde de la lutte gréco-romaine et s'entraîne avec la soif de ceux qui veulent s'en sortir, sur les tapis de la salle des Gobelins d'abord, puis du côté de la porte d'Italie. Il y apprend le goût de l'effort, de la gagne et de l'exploit physique bien sûr, mais aussi l'humilité et la fraternité qui règnent entre les lutteurs. Quelques temps plus tard, en 1939, la guerre vient interrompre le début de carrière du prometteur Lino Ventura. Toujours italien, il se retrouve enrôlé malgré lui dans les troupes de Mussolini, mais déserte à la première occasion, en 1943, pour retrouver Paris et sa compagne. Le jeune homme retrouve aussi le chemin des salles de sport à la Libération, mais en se tournant cette fois vers une autre discipline qui parie sur le grand spectacle, les prises audacieuses et déjà une forme de scénarisation et de chorégraphie qu'on retrouve aujourd'hui, le catch. À un moment où le grand public a besoin de s'amuser et d'oublier les années noires et l'occupation, la lutte est sur le déclin. Le catch, lui, s'épanouit. Le catch est à la fois un sport et un show. Les spectateurs en veulent pour leur argent et Lino Ventura leur en donne. Sur le ring, il devient Lino Borini, reprenant le nom de jeune fille de sa mère, et joue déjà. Il se compose un rôle de méchant, de teigneux, agressif, impulsif et violent. Entre 1945 et 1950, sa carrière est aussi spectaculaire que sa grande spécialité, la manchette. Solide, tenace, celui qu'on surnomme désormais la fusée italienne écume les salles parisiennes, du cirque d'hiver à la salle Wagram. En février 1950, Ventura atteint le Graal en remportant le championnat d'Europe dans sa catégorie, celle des poids moyens, et pour son pays, l'Italie, dont il gardera toute sa vie la nationalité. En bon italien, Lino Ventura devait le savoir, il n'y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpeienne. Le 31 mars 1950, la fusée italienne remet son titre en jeu face à un adversaire on ne peut plus coriace, le français Henri Cogan, qu'on surnomme l'Assommoir. Pendant 30 minutes, sur le ring installé au centre du cirque d'hiver, l'Assommoir et la fusée italienne puisent généreusement dans le répertoire particulièrement riche de baffes en tout genre, jusqu'au moment où Henri Cogan finit par enfourcher son adversaire, c'est-à-dire qu'il le soulève avant de le projeter à travers le ring. Surpris, Lino Ventura n'a pas le temps de préparer sa chute, roule sous les cordes et atterrit dans les chaises installées au premier rang avec une double fracture ouverte à la jambe en prime. Très vite, le verdict tombe à 31 ans. Sa carrière de catcheur est terminée. La mort dans l'âme, Lino Ventura continue bien de fréquenter les salles d'entraînement pour donner des conseils aux petits jeunes de son écurie ou organiser des rencontres. Mais ses jours de gloire sont derrière lui. Alors, en attendant, il épaule son épouse dans la petite société qu'ils ont créée voilà quelques années. Une fabrique, ça ne s'invente pas, hein, de layettes pour nourrissons du baby-boom. Gros dur, cœur tendre, c'est ce personnage-là qui va vite sans le vouloir séduire le cinéma. Son passage du ring au grand écran s'est presque fait contre son gré. En 1953, le cinéaste Jacques Becker cherche une gueule, un costaud capable de tenir le choc face à l'immense Jean Gabin pour son nouveau film « Touchez pas au Grisby ». Un ami glisse son nom. Jacques Becker est conquis, mais pas Lino Ventura, peu convaincu par ce monde de saltimbanques qui ne lui paraît pas bien sérieux. Au culot, il réclame alors un cachet d'1 million d'anciens francs tout de même. Contre toute attente, c'est oui. L'année suivante, Touchez pas au Grisby sort en salle et le grand public adopte aussitôt cette grande baraque à la voix éraillée, ce costaud têtu et grognon à ses heures. D'abord cantonné au rôle de gangster ou de gros dur, comme dans Le Gorille vous salue bien en 1958, il ne tarde pas à composer des personnages plus complexes, notamment celui d'un brigadier des forces françaises libres dans Un taxi pour Tobrouk en 1961.
Vous n'allez pas nous déballer toute votre carte postale, non? Couplet sur Paris, il y a 2 ans qu'on en croque. Ça revient comme du chou. Les petits bistrots pas chers, les grands billes du samedi, la place du Tertre, les toits du pont de l'Allemagne. Et dans 5 minutes, il y en a un qui va sortir un ticket de métro ou des photos de l'affaire du trône. Non, pour moi, tout ça, c'est râpé. Il n'y a plus de Paris. Il y a Grosse Paris, un point, c'est mer.
Seriez-vous insensible à la nostalgie, brigadier Dudu ?
Non, mais j'aime pas penser à reculons, je laisse ça aux lopes et aux écrevisses.
Puis 2 ans plus tard, je le disais évidemment au début du récit, dans le cultissime Les Tontons Flingueurs, une parodie de film noir, où il retrouve donc son ancien adversaire et ami malgré tout, Henri Cogan. Les grands rôles s'enchaînent dans les années 60, comme celui du Plouc dans 100 000 dollars au soleil de Henri Verneuil, du commissaire Le Goff dans Le Clan des Siciliens ou de l'inoubliable Philippe Gerbier, le résistant de L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville en 1969.
Alex, regardez dans la salle à manger ou dans la cuisine si vous trouvez quelque chose.
Mais ce n'est pas possible. Je vous en supplie, c'est un assassinat.
Nous sommes ici pour tuer de toute façon, vous êtes d'accord?
Je suis d'accord, mais pas comme ça. Il faudrait...
Oui, je sais, la manière.
Mais au-delà de ces grands rôles dramatiques, l'ancien catcheur accepte parfois de jouer dans des comédies comme L'Emmerdeur, où son duo avec Jacques Brel fait des merveilles. Pudique, discret et presque timide à la ville, Lino Ventura est un homme intègre dans la vie comme dans ses rôles qu'il choisit avec soin. Lino Ventura n'a pas d'agent, mais il a une règle d'airain. Ne jouer que des personnages dont il n'aurait pas honte de serrer la main. Parfois, le colosse accepte de fendre un bout d'armure, comme dans La Gifle de Claude Pinoteau, avec son personnage de père séparé, dépassé par son époque et par sa fille, interprété par Isabelle Adjani.
Tu veux quoi?
La liberté!
C'est pas un métier, ça. Mais tu as raison, tu vois. Ce que je viens de dire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est parce que je vais pas bien. Parce que depuis 1 heure, de la façon dont tu me parles, tu es vraiment n'importe qui.
Des gifles, des claques, Lino Ventura en aura donné sur les rings. mais aussi aux spectateurs venus l'admirer dans ses œuvres tout au long de sa carrière. Une carrière et une vie qui s'achèvent en 1987. Terrassée par une crise cardiaque, la fusée italienne s'envole une dernière fois. Ce jour-là, le cinéma perd un comédien rare. Les Français perdent, eux, un homme à qui ils auraient été fiers, eux aussi, de serrer la main.
Europe 1, historiquement vôtre.